France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Michaël Bakhtin est, à tous égards, une figure de l'ombre. Le grand public n'a jamais entendu son nom, et même la plupart des étudiants et étudiantes en lettres ignorent son existence. On ne sait que très peu de choses sur sa jeunesse, et il demeure durant la majorité de sa vie dans un anonymat relatif. Il se voit même refuser le titre de docteur pour sa thèse, controversée à l'époque sur Rabelais. Pourtant, ce théoricien russe de la littérature a eu un impact conséquent sur l'évolution de la théorie littéraire. Sa lecture de Rabelais, notamment, qui l'inscrit dans l'héritage d'une littérature carnavalesque, a provoqué un renouvellement des études rabelaisiennes. L'aspect sans doute le plus notable de son travail porte sur ce qu'il appelle le dialogisme et la polyphonie du roman, l'interaction entre la voix narrative principale et celle des autres personnages, qui permet à plusieurs voix et systèmes moraux d'exister dans un même roman, sans que l'écrivain vienne se placer en juge qui hiérarchise ces voix. Autrement dit, le dialogisme, qu'il observe notamment dans le travail de Dostoïevski, permet à l'auteur de se constituer en entité neutre, qui ne vient légiférer ni sur la véracité des points de vue des personnages, ni en conséquence sur l'expérience de lecture. Dans ce numéro du « Regard et la lecture », diffusé pour la première fois en 1970, Michel Zeffara reçoit Julia Kristeva et Michel Beaujour pour explorer à la fois la genèse de l'œuvre et de la réception de Bakhtin, et son influence, cachée mais importante, sur la théorie littéraire moderne et même sur la linguistique. L'occasion de rendre hommage à un théoricien qui, de son vécu, n'a jamais pu mesurer l'impact, toujours croissant, d'une œuvre charnière du XXe siècle.
Nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui à l'œuvre de Michaël Bakhtin, dont le livre sur Rabelais vient d'être traduit. Cette émission parlera également d'un livre à la poétique de Dostoïevski, qui est paru l'année dernière. Le livre sur Rabelais s'intitule exactement « L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance ». Il a été publié dans la Bibliothèque des idées aux éditions Gallimard. La poétique de Dostoïevski a été publié il y a quelques mois, avant les vacances, aux éditions du Seuil, avec une présentation de Julia Kristeva, et les hasards des droits d'auteur russes libres ont fait que le volume est paru en même temps aux éditions de l'Âge d'Homme, de même que les deux éditions de Props sont parues il y a deux mois, au même moment. Nous avons invité aujourd'hui pour venir parler avec nous des problèmes posés à l'analyse littéraire par l'œuvre de Bakhtin, Julia Kristeva, chargée de recherche au CNRS, qui a préfacé la poétique de Dostoïevski aux éditions du Seuil, qui est l'auteur d'un important ouvrage d'essais critiques et théoriques sur l'analyse de la littérature et plus largement l'analyse des signes, qui s'intitule « Sémiotiké, recherche pour une sémanalyse » aux éditions du Seuil dans la collection telle qu'elle. D'autre part, nous avons avec nous Michel Beaujour, professeur de littérature française à New York University, auteur d'un essai « Le jeu de Rabelais », publié l'année dernière aux éditions de Lerne dans la collection Essais et philosophie. Julia Kristeva, je crois qu'il serait nécessaire de commencer par dire qui est Michaël Bakhtin, que je crois assez inconnu au public français.
On peut dire que Michaël Bakhtin est un auteur qui est connu principalement par les deux ouvrages qui viennent de paraître, car en dehors de ces ouvrages, il est l'auteur aussi d'un article, mais je crois qu'on peut s'en tenir aux deux ouvrages pour le présenter mieux. Or, ce sont des livres dont on peut dire qu'ils ont un destin assez rare, car après la publication du premier en 1929, pendant une période de 40 ans jusqu'à nos jours...
Le premier, vous voulez dire la poétique
c'est-à-dire
de Dostoïevski.
C'est-à-dire le problème de poétique de Dostoïevski. Donc, ces deux ouvrages ont subi, si on peut dire, une triple lecture. Je veux dire que pendant 40 ans, ils ont été à trois fois découverts et à chaque fois lus de façon différente. Et je crois que c'est un phénomène qui caractérise particulièrement bien le personnage de Bakhtin en tant qu'auteur théorique. La première découverte, en effet, de son œuvre coïncide avec la publication de son ouvrage, comme je viens de le dire, en 1929, et qui est « Problème de l'œuvre de Dostoïevski ». À cette époque-là, il s'intitule « Problème de l'œuvre de Dostoïevski ». Le livre se présente méthodologiquement comme une critique immanente du formalisme. Et pour le situer bien, il faudrait peut-être revenir tout à l'heure à cette situation du formalisme à cette époque-là, en 1929. La deuxième découverte de ces livres se situe à la réédition de ce livre sur Dostoïevski, sous le titre déjà modifié « Problème de la poétique de Dostoïevski » en 1963, et à la publication en 1965 du second ouvrage, à savoir « L'œuvre de François Rabelais ». Tous ces deux ouvrages sont alors lus en Union soviétique et dans les pays socialistes comme une mise en cause de la conception platement idéologique et sociologique de la littérature. Et à partir de là, deux interprétations de l'œuvre de Bakhtin s'ouvrent pour les gens de pays de l'Est, pour les théoriciens soviétiques de la littérature. D'une part, comme une interprétation thématique, mais je dirais thématique plurielle, des textes littéraires, c'est-à-dire sans les réduire à l'idéologie critiquable de leur auteur, mais en même temps s'insérant quand même dans une conception esthétique marxiste de la littérature, comme série idéologique plus ou moins indépendante de la détermination sociologique. C'est une des interprétations qu'on donne de Bakhtin à l'Union soviétique au moment de la republication de ces textes. Et la deuxième interprétation, c'est qu'on voit dans les textes de Bakhtin un précurseur de la recherche sémiotique, ou si on veut, généralement structuraliste, qui renoue avec le formalisme des années 30. Et c'est dans ce sens que l'interprètent actuellement les sémioticiens soviétiques. Je crois qu'il y a aussi ce qu'on peut appeler la troisième découverte des textes de Bakhtin, et qui se situe cette fois à l'Occident, en France notamment, avec la republication des textes, plutôt leur traduction à Paris. C'est-à-dire que la lecture de ces livres en France se fait à la lumière du structuralisme, d'une part, le structuralisme digne grossièrement celui de Lévi-Strauss et plus particulièrement peut-être de Barthes en littérature, mais aussi à la lumière de la psychanalyse. Et je crois que l'intérêt de Bakhtin pour le carnaval, pour le corps, pour le rêve, pour le rire, ou en général pour la subversion discursive, est apparu comme un précurseur des travaux sur la logique de l'inconscient, sur la soumission du sujet à son inconscient, etc.
Oui, alors que lui n'est pas du tout parti en général d'une perspective
freudienne.
C'est
ça, même je crois qu'on peut dire qu'il n'a peut-être pas connu Freud parce qu'il n'y a pas de référence explicite au moins à Freud dans ses textes. Mais en tout cas, je crois qu'on peut signaler que dans ces trois temps de la découverte, de la redécouverte des textes de Bakhtin, il apparaît plutôt, à mon avis, comme un théoricien, comme un méthodologue, plus que comme un spécialiste de tel ou tel écrivain, comme un spécialiste de Rabelais ou comme un spécialiste de Dostoïevski. Et à mon sens, son importance est plutôt méthodologique en tant que précurseur de telle ou telle tendance de la critique littéraire actuelle.
Et alors, est-ce qu'il est très lu en Russie? Est-ce qu'il a une grande influence là-bas? Et que fait-il précisément en Russie à l'heure actuelle, je veux dire, en Union soviétique? Il enseigne
Je crois qu'il est déjà assez âgé et qu'il n'enseigne directement pas, mais qu'il est attaché à l'université à Saransk, et c'est là, dans les actes de cette université, qu'il a publié certains de ses derniers ouvrages, qui sont des articles, lesquels font partie, paraît-il, d'un autre livre qu'il est en train de préparer sur les genres littéraires, ou sur la typologie des discours dans les genres littéraires. Son influence est en effet importante à l'Union soviétique, comme je l'ai dit, dans deux sens. D'une part, pour rejoindre une interprétation marxiste, esthétique, de l'esthétique marxiste, c'est-à-dire sans les réduire à une détermination sociologique, mais en les considérant comme séries autonomes et pouvant récursivement influencer même la base. Et d'autre part, comme précurseur des recherches sémiotiques. Il vient de paraître, par exemple, un livre en Union soviétique d'un des jeunes théoriciens de littérature qui s'appelle Ouspensky, dont le titre est « Poétique de la composition » et qui se réclame ouvertement de Bakhtin, qui est une exégèse de Bakhtin, qui essaye de développer une théorie des formes littéraires à partir de Bakhtin.
Je voudrais revenir une seconde sur ce terme de formalisme et de formaliste. Il est particulièrement frappant que ce soit dans les années 25-35 à peu près, ou 25-30-40, que tout un mouvement d'interprétation et d'analyse de la littérature et plus généralement de l'art est littéralement contrer ce qu'on appelle vulgairement la théorie du reflet, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens, nous parlions de Propre la dernière fois, qui soient partis des formes artistiques et littéraires telles qu'elles se présentent dans un livre pour arriver à des faits sociaux, c'est-à-dire sans les éluder, mais pour y arriver et trouver des rapports entre des formes sociales et des formes esthétiques. C'est-à-dire, comme vous l'avez très bien dit, le problème de la détermination directe ne s'est pas posé, ou plus exactement, des gens comme Propre et comme Bakhtin n'ont pas voulu poser le problème de la détermination sociopolitique directe. Je crois que il faut le dire, surtout à notre époque, où les travaux dont nous allons parler maintenant ne peuvent qu'avoir un grand retentissement en France.
Oui, je crois que pour comprendre en effet la méthodologie bakhtinienne, il faudrait la situer dans le contexte du formalisme russe, qui a été probablement un des premiers courants de la théorie de la littérature à rompre très nettement et de façon scientifique avec l'idée de la détermination directe de la littérature et de tout produit, disons, idéologique par l'économie ou vulgairement de l'histoire. En effet, à l'époque dont nous parlons, le formalisme est l'avant-garde de la théorie littéraire. En Russie. On sait que la suite des cercles linguistiques de Moscou et de Leningrad est en collaboration étroite avec des littéraires eux-mêmes, des praticiens de la littérature. La science littéraire a essayé de se constituer comme une science du langage littéraire, ou si on veut, du langage poétique d'une part et des structures narratives d'autre part, problème dont s'est occupé Propre et dont vous avez parlé, je crois, il y a pas longtemps. Cette science de la littérature essayait de la construire comme un objet scientifique, en s'appuyant sur l'objet langage de la linguistique qui commençait déjà à s'élaborer comme science structurale avec la phonologie, avec Trubetskoy, etc. C'est la littérature dans sa littérarité ou dans sa formalité qui devenait objet de la science littéraire. Or, une fois ceci fait, une telle tentative a trouvé des obstacles ou des réactions au moins de la part de la critique constituée ou de la part d'autres courants littéraires. Ces réactions venaient grossièrement de trois côtés. D'une part, c'était la critique de Trotsky, qui, dans son livre « Littérature et révolution », voudrait garder cette région technique d'étude du langage littéraire, mais le subordonner à une conception sociologique de la littérature. D'autre part, ce qu'on appelle les sociologues vulgaires, qui voulaient tout simplement abandonner le formalisme et revenir à une détermination directe de la littérature par l'histoire. Et en troisième lieu, et c'est pour ça que Bakhtin nous intéresse, il y a donc ce qu'on appelle les post-formalistes, à savoir Bakhtin et un groupe autour de lui, avec des gens comme Voloshinov et Medvedev, qui avait une autre conception plus subtile du problème littéraire, qui acceptait le formalisme dans un certain point, mais qui disait en même temps qu'il en faisait une critique immanente. Et c'est ça, justement, l'intérêt de leur travail. En quoi consiste cette critique immanente ? Je crois qu'on peut résumer en deux points. D'une part, il voulait étudier la littérature dans sa matérialité langagière, c'est-à-dire le sens littéraire est donné dans le fonctionnement spécifique du langage et dans la logique des agencements des différentes séquences, des contenus si on veut, d'où le discours de l'auteur et de ses personnages, les rapports entre le discours de l'auteur et des personnages, ou bien les différents types de contradictions entre les thèmes du carnaval, le haut et le bas, la jeunesse et la vieillesse, la sagesse et la sexualité, etc., qu'il va étudier chez Rabelais par exemple. Donc une espèce de logique des contenus. Mais, d'autre part, ce langage qu'il va étudier dans la littérature ne peut pas coïncider, dit Bakhtin et disent aussi ses collaborateurs, ne peut pas coïncider avec le langage en linguistique. Par conséquent, pour étudier la littérature dans sa spécificité et le langage littéraire dans sa spécificité, il faut introduire d'autres éléments pour constituer un autre objet langage qui serait différent de l'objet langage en linguistique. Et quels seraient ces autres éléments qu'on introduirait ? C'est d'une part le sujet, d'autre part, l'histoire. Le sujet parlant, mais ça veut dire aussi l'inconscient, ça veut dire son rêve, son corps, etc. L'histoire, ça veut dire les idéologies. D'où l'évitement du formalisme, ou si on veut, sa refonte dans une conception qui se présente comme psychologique, mais qu'on peut interpréter aussi comme psychanalytique, et en même temps historique et idéologique du texte littéraire.
Bien, ce sont donc cet ensemble d'affirmations que nous allons maintenant essayer de montrer, de donner en exemple à partir des livres même de Bakhtine et tout particulièrement du livre sur Rabelais qui vient de paraître. Michel Beaujour, tu t'es beaucoup intéressé à Rabelais puisque tu as consacré un livre entier à cet auteur. Et dans la préface de ton livre, tu te réfères au travail de Bakhtine comme le travail à partir duquel on peut commencer à interpréter Rabelais en des termes réellement modernes et disons en termes positifs.
Oui, moi je suis arrivé à la lecture de Bakhtine par des voies beaucoup plus détournées sans doute que celle de Julia Kristeva, puisque je suis tombé sur Bakhtine, pour ainsi dire, par hasard et par deux chemins différents. D'une part, par un article de Julia Kristeva et d'autre part, par des discussions avec des collègues qui étaient slavisants aux États-Unis et qui m'ont présenté ce livre qui d'ailleurs était illisible pour moi. Et par conséquent, je suis rentré en contact avec le livre de Bakhtine sur Rabelais à travers une traduction partielle. Il a fallu que j'attende la traduction du livre en anglais pour pouvoir le lire réellement, puis ensuite sa traduction en français. C'est dire que le livre, dans mon approche de Rabelais, jouait en partie un rôle tactique. C'est-à-dire que j'ai utilisé Bakhtine un peu contre la tradition d'exégèse rabelaisienne que j'avais rencontrée auparavant et qui me semblait inadéquate. Maintenant, en ce qui concerne la lecture propre de Bakhtine, celle qui a nourri mon propre essai et qui, en un sens, le rendait inutile. Je dois dire que j'ai beaucoup hésité ensuite à écrire ce livre qui me semblait peut-être un peu redondant par rapport à celui de Bakhtine. Ce qui m'a d'abord frappé dans le livre de Bakhtine, ce n'est pas tellement à ce niveau-là, au moment où je l'abordais, ce n'est pas tellement la théorie de la littérature qui s'y présentait, mais c'est au fond une façon de renverser la lecture de Rabelais. Il s'agissait, comme le disait Julia Kristeva à propos de la théorie, d'un renversement du haut et du bas, du corps et du sérieux. Il s'agissait donc de faire une lecture renversée de Rabelais. C'est seulement par la suite que j'ai relu que mes préoccupations à l'égard de Rabelais s'étant un petit peu estompées, que j'ai pu relire Bakhtine pour y suivre la démarche théorique que m'avait signalé Julia Kristeva et que, je dois dire, je n'avais pas trouvé au départ en lisant uniquement le Rabelais. Car, au fond, c'est le livre sur Dostoïevski qui présente, à mon sens, certains aspects théoriques de façon beaucoup plus claire. Maintenant, en ce qui concerne le livre sur Rabelais, ce qui est frappant, c'est d'abord que Bakhtine rattache l'œuvre de Rabelais à toute une tradition littéraire. Tradition littéraire qui est différente de celle à laquelle on rattache habituellement Rabelais. C'est-à-dire que Bakhtine est allé rechercher jusque dans la Grèce de l'Antiquité, jusqu'à cette période, au fond, de la période de la fin de l'Empire romain, si l'on veut, autour du 1er siècle, où se manifeste une littérature qu'il rattache à un phénomène social particulier. Et d'ailleurs, le lien ne m'apparaît pas encore très clairement. Le phénomène social en question, c'est les Saturnales romaines et les Lupercales qui ont peut-être, et ça c'est une hypothèse, été ensuite absorbés, qui se sont peut-être enfoncés dans les profondeurs du peuple, pour ainsi dire, et qui se seraient transformés, tout au moins en France, en carnaval et en fête des sceaux, etc.
Oui, d'où le sous-titre du livre, enfin, qui s'appelle « Et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance ».
Oui. Alors, il y a une hypothèse chez Bakhtine qui est difficilement vérifiable dans l'état actuel des choses. Je ne sais pas s'il y a effectivement, et ça c'est une des choses qui sont débattues par les historiens de la culture, si l'on veut, de savoir s'il y a réellement une continuité entre les Lupercales romaines et les Saturnales romaines, d'une part, et d'autre part, les fêtes des sceaux, les carnavals du Moyen-Âge. L'autre question qui reste, à mon sens, difficile à résoudre, c'est de savoir s'il existe réellement un lien entre une littérature carnavalisée, carnavalesque, c'est-à-dire une littérature différente de la littérature officielle, de la littérature sérieuse, je vais essayer de préciser en quoi elle est différente, entre cette littérature et le phénomène social. Ça pose des problèmes qui ont déjà été évoqués, d'ailleurs, par Julia Kristeva quand elle parle de séries différentes de celles qui se manifestent dans l'ordre social.
Moi, ce qui m'a beaucoup frappé enfin, dans le livre de Bakhtine, c'est que pour un lecteur qui, par exemple, n'aurait de Rabelais que l'idée relativement conventionnelles qu'on peut en avoir à travers la transmission, soit d'un enseignement secondaire, soit d'un enseignement de faculté. C'est l'opération de renversement total qui s'opère au niveau même de la lecture de Rabelais. Cette revue impressionnante qu'il fait de toute la tradition exégétique, aussi bien celle d'Abel Lefranc, ensuite du livre de Lucien Febvre et tout, pour arriver à dire au fond, Rabelais, c'est pas ça, c'est toujours décalé. Oui. Et autre chose que l'image trop positive et trop simple qu'on en présentait.
Bon, alors ce qui m'avait frappé dès le début, et c'est ça qui m'avait intéressé chez Bakhtine, c'est le fait qu'il lit en fait les passages qui ne sont jamais lus ou qui n'ont été presque jamais lus par les critiques français traditionnels. Que ce soit les critiques positivistes comme Abel Lefranc, ou bien d'autres critiques d'une école plus récente, les critiques anglais en particulier, comme Screech, qui s'intéresse au côté humaniste de Rabelais et à ses liens avec Érasme en tant qu'évangéliste. Or, les chapitres, les passages auxquels s'intéresse Bakhtine sont ceux précisément qui sont laissés de côté parce qu'ils sont considérés comme trop sales et qui sont illisibles pour les élèves des écoles. Je crois que c'est aussi simple que ça. Il est question de grossièreté dans ces passages et on ne peut pas les expliquer en classe. Or, nous savons les liens qu'il existe entre la critique et la pédagogie et par conséquent, la critique, elle aussi, se tenait à l'écart de ces choses-là. D'autre part, Bakhtine voyait des choses que des exégètes ou des érudits tels que Platard n'avaient pas vues du tout. Platard ne signale nullement les liens de Rabelais avec cette tradition carnavalesque ou cette tradition de la satire ou de la satire dite ménipée dont Bakhtine fait le centre de son étude. Eh bien, en ce qui concerne le renversement du haut et du bas, donc, il s'agit essentiellement de déplacer les trous de la lecture. Car on a pu accuser Bakhtine, et c'est ce qui a été fait en particulier par une historienne anglaise qui s'appelle Frances Yates et qui a écrit plusieurs livres importants sur le XVIe siècle, en particulier un livre sur les académies platonisantes du XVIe siècle, et où elle accuse Bakhtine de ne pas tenir compte, par exemple, de l'épisode de l'abbaye de Thélème. Par conséquent, on peut penser que l'œuvre de la critique de Bakhtine, l'étude de Bakhtine, est au fond aussi une autre censure à l'égard de la critique humaniste traditionnelle.
Oui, mais Bakhtine met l'accent précisément, enfin, son grand apport, c'est d'avoir mis l'accent sur ce que toute une grande partie de la critique a en quelque sorte refoulé, au nom de l'humanisme.
Oui.
J'aimerais qu'on parle un petit peu du rapport qu'il y a entre ce que vous appelez le renversement du haut et du bas et du carnaval. Cette notion de bas, c'est-à-dire ce qui se passe en bas du corps et auquel Bakhtine revient très souvent, j'aimerais que vous, s'il vous plaît, que vous précisiez le rapport entre ce bas et la fête carnavalesque.
Bien. La réponse doit se situer sur plusieurs niveaux. D'une part, il y a le carnaval, et le carnaval vu par Bakhtine. Le carnaval vu par Bakhtine est un moment de l'année, et un moment de la vie, si l'on veut, qui détruit les limites telles qu'elles étaient entendues au Moyen-Âge. La hiérarchie, les limites imposées aux vocations, par exemple, à l'intérieur de la société. Par conséquent, nous nous trouvons face à quelque chose de non centré et de non hiérarchisé, et où, en particulier, la différence entre spectateurs et ceux qui parlent, ceux qui ont la parole, c'est-à-dire l'autorité, est dissoute. Et par conséquent, les voix se trouvent à égalité dans la foule. On trouve un discours non centré dans l'œuvre de Rabelais, qui est porté par des personnages qui sont dans cette situation de la fête et qui sont sur la place publique. Bakhtine étudie particulièrement, en particulier, le discours des injures, des insultes. Et ces insultes sont des insultes qui retournent, qui, en même temps, sont dépréciatives et, en même temps, laudatives. De telle sorte que, au niveau même de ces listes d'insultes, on trouve ce renversement du haut et du bas qui se manifeste plus particulièrement dans la représentation du corps. Le corps, d'après Bakhtine, dans l'œuvre de Rabelais, n'est pas un corps fermé, c'est un corps collectif. Alors que pour la culture ultérieure, pour la culture bourgeoise ultérieure, le corps est ce qu'il y a de plus individuel. Pour Rabelais, le corps appartient à l'ensemble du peuple. C'est un corps qui est non pas appelé à la mort individuelle, mais qui est à la fois naissance, mort, renouvellement, qui n'est jamais refermé sur lui-même et où le haut, c'est-à-dire la tête, c'est-à-dire l'esprit, et le bas, c'est-à-dire le postérieur, lieu de la sexualité, lieu de la défécation, prend une valeur aussi grande et même plus grande que les parties supérieures, c'est-à-dire la tête, l'esprit. Donc, dans cette lecture de Rabelais par Bakhtin, ce qui était déprécié et ce qui était habituellement passé sous silence par la critique est mis en valeur. Mais cependant, Bakhtin ne produit pas un discours qui est linéaire. Il ne dit pas « dans Rabelais, il y a seulement le bas, il y a seulement le discours de la sexualité libéré dans le carnaval, le discours de scatologie libéré dans la fête », mais il y a un jeu perpétuel entre le haut et le bas. Car bien entendu, le texte de Rabelais présente les deux aspects, mais si Bakhtin met particulièrement en valeur celui, l'aspect du bas, c'est toujours en soulignant qu'il y a ce jeu.
Et je crois que c'est ça qui provoque le rire, qui est ce rire sur lequel il insiste tant dans son premier chapitre, qui est vraiment en quelque sorte le pivot et l'articulation de tout le discours qui tient.
Oui, je crois que le rire, qui n'ont pas le pivot et l'articulation, mais en fait c'est ce qui désarticule. C'est ce qui désarticule la société en fait. Au moment de ce carnaval, au moment de cette rupture de l'ordre, c'est le rire qui est le signe même de ce remplacement du haut par le bas. Naturellement, alors à ce point-là, il faudrait lier les analyses, disons, d'ordre folklorique ou sociologique, ou même, si l'on veut, de biologie historique, au niveau de l'analyse littéraire, à proprement parler. C'est-à-dire le fait que ce renversement peut se manifester dans des discours. Le fait que ces discours sont, en un sens, homologiques du déchaînement de la fête du carnaval. Le fait que il y a un discours pluriel, un discours collectif qui peut venir s'inscrire sur une page qu'on a l'habitude de lire comme étant un discours linéaire qui va de gauche à droite et de haut en bas.
En d'autres termes, les passages qui ont été si souvent censurés dans Rabelais, je ne dirais pas qu'ils sont l'essentiel, mais qu'ils sont rigoureusement nécessaires à l'œuvre, qui montrent qu'il ne peut pas y avoir de vie sans mort, et inversement, qu'il ne peut pas y avoir de mort sans vie, et que c'est ce que nous appelons aujourd'hui cette dialectique qui a à la fois le rire pour origine et pour but. Et que, comme l'indique d'ailleurs Jean Barris dans un ouvrage relativement récent sur Rabelais, on se trouve devant une totalisation de l'homme et par conséquent devant une totalisation du langage. On ne peut rien laisser au hasard. On ne peut rien laisser plus exactement de côté dans le langage. Il faut faire des énumérations, de même qu'il faut que l'homme soit à la fois n'est pas le mot exact, mais tant pis, à la fois son ventre et sa tête. Et alors, nous en arrivons ici au problème de la forme sociologique telle que l'exprime, si on peut dire, l'œuvre de Rabelais, c'est-à-dire une forme sociologique plurielle, une forme sociologique multiple. Il y a une polyphonie dans la société. Cette polyphonie coïncide à un moment donné avec la percée de la bourgeoisie dans les grands appareils institutionnels monarchiques et religieux. Et il est remarquable que Bakhtin ait trouvé une homologie entre cette pluralité sociale telle qu'il l'étudie à la Renaissance et la pluralité sociale telle que le capitalisme, et un capitalisme un peu sauvage en Russie, telle que le capitalisme en quelque sorte la provoque dans la Russie de Dostoïevski. C'est-à-dire, à la polyphonie rabelaisienne va correspondre, peu importe la chronologie, laissons-la de côté pour le moment, ce que Bakhtin appelle le roman polyphonique où il y a plusieurs voix ensemble.
Oui, je crois que cette théorie du roman polyphonique est exposée de façon magistrale dans le premier ouvrage de Bakhtine dont nous avons parlé au début, qui est intitulé « Problème de la poétique de Dostoïevski ». Évidemment, le mot « poétique » devant être entendu ici, non pas comme poétique du langage poétique, mais comme étude de l'organisation formelle interne de tout texte, qu'il soit en prose ou en vers, n'a pas d'importance. Cette théorie du texte littéraire, la théorie bakhtinienne du texte littéraire qui est appliquée à l'étude de l'œuvre de Rabelais, est exposée dans ce premier ouvrage que nous avons ici en traduction aux éditions du Seuil. Je crois qu'on peut lire de façon différente ce livre et l'interprétation qu'a donnée Michel Beaujour à l'ouvrage sur Rabelais témoigne d'une lecture du type plutôt thématique, disons organisation des thèmes d'après une logique particulière qui correspond à la logique, disons, du corps collectif, etc. Un autre type de lecture est peut-être possible de cette méthodologie bakhtinienne qui serait plus attentive, cette lecture, à la découverte de l'inconscient et au fonctionnement du signifiant tel que l'exposent des théories plus récentes. Et je crois que si on lit le livre de Bakhtine sur Dostoïevski à cette lumière-là, on peut être frappé par divers aspects de la pensée bakhtinienne qui semblent être des précurseurs des recherches modernes. Je ne vais pas insister sur tous ces aspects, je relèverai deux, dont l'un est le problème de la division du sujet et l'autre est le problème de la topologie romanesque. Qu'est-ce qu'on entend par division du sujet ? Bakhtine le souligne à plusieurs reprises. Le jeu de l'écrivain, le sujet écrivain, ne coïncide pas avec le sujet du texte. Et à la rigueur, il n'y a pas de sujet du texte. Parce que il devient...
À la limite, vous voulez dire.
Oui, à la rigueur et à la limite, oui. En deux sens. Parce que ce sujet de texte devient la pluralité des personnages en tant que discours pluriel. Chaque personnage est un point de vue. Une voix, dit-il, de cet auteur, de ce jeu qui s'est pluralisé ou qui s'est pulvérisé même dans le texte. L'homme n'est pas dans un sens, car il ne répond pas à la question qui il est, mais à la question comment il est, comment il se dissout, comment il se fait et refait, comment il naît et comment il meurt sur la scène du carnaval. Cette division de l'auteur ou du sujet écrivant est provoquée d'abord par l'autre. Bakhtine le dit très clairement, sans évidemment se rapporter à Freud ni à la théorie de l'inconscient, mais on peut l'entendre, je crois, à cette lumière. Cet autre est d'abord l'autre sujet auquel le texte est destiné, le destinataire du texte, le lecteur, si on veut. Mais aussi, c'est l'écrivain lui-même, le sujet écrivant lui-même, en tant qu'autre, par rapport à la prétendue unité qu'il est censé avoir pour le public.
Oui, disons ce qu'en d'autres termes, on a assez longtemps appelé en tradition littéraire, même dans des études assez structurales, enfin le double...
Si on veut, oui, c'est ça. C'est un dédoublement du sujet, et en même temps un dédoublement de son discours. Parce que du coup, si le sujet n'est pas monolithique, s'il est profondément et essentiellement dédoublé, tout son discours est bivocal, dit Bakhtine. Par conséquent, l'univocité, l'objectivité du discours est un leurre. Et le roman réaliste qui prétend constituer une vérité déjà là, une vérité monolithique, univoque, univocale, comme le roman de Tolstoï, est appelé un roman monologique, auquel s'oppose une autre tradition littéraire, qui est celle du carnaval, qui vient de Ménippe, qui passe par la tradition romaine, qui arrive au Moyen-Âge avec le carnaval du Moyen-Âge, et qui se présente de façon déjà déformée, mais quand même assez nette, chez Dostoïevski. Qu'est-ce qu'on voit dans le fonctionnement du verbe chez Dostoïevski ? C'est cette bivocalité essentielle, c'est ce dialogisme, dit-il. Chaque mot est lui-même et autre chose. Dans chaque mot, il y a l'auteur qui parle, mais aussi quelqu'un d'autre, qui est peut-être le personnage, qui est peut-être le lecteur auquel on s'adresse, qui est peut-être le double de l'auteur lui-même. Dans cette polyphonie de discours, justement, les différents discours apparaissent comme des fantasmes. Et je crois que c'est très important comme découverte scientifique dans le texte théorique de Bakhtine, c'est que sur la scène du carnaval, il remarque dans quelle mesure les discours sont investis par le corps et dans quelle mesure le corps est investi dans le discours, de sorte que par le discours se produit une topologisation du corps qui est le fantasme, à savoir une redistribution de la logique du corps, d'où ces bizarreries sexuelles qui envahissent la scène du carnaval, d'où ces monstres, d'où les folies, d'où les anomalies sexuelles, etc.
Vous avez dit division du sujet, ce qui ne veut pas dire, évidemment, éclatement du sujet. Vous avez très bien dit que, chez Dostoïevski, la position qu'il assume, celle de la polyphonie, l'amène à exprimer toutes sortes d'aspects de l'humain qu'on n'était pas habitué à voir exprimer, et ces aspects de l'humain sont en quelque sorte en littérature ce qu'est le carnaval dans la vie sociale. En d'autres termes, à quoi assiste-t-on chez Dostoïevski ? À une totalisation du monde et de l'humain, totalisation par division. Et aussitôt, on peut se demander dans quelle mesure Dostoïevski n'est pas la seule véritable grande source d'une littérature, non pas où le sujet s'efface, mais d'une littérature où le sujet est constamment mis en question. Je parle, par exemple, de Joyce.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que l'exemple de Joyce est très important. On peut en trouver d'autres, aussi bien dans la littérature française que dans la littérature anglaise, et pas seulement en prose, si on veut, même dans ce qu'on appelle le langage poétique. Quelqu'un comme Mallarmé, par exemple, dans l'éclatement qu'il fait de la syntaxe française dans un texte comme Le coup de dé, ou quelqu'un comme Artaud qui dissout les cadres du théâtre occidental pour en introduire une autre scène orientale ou un autre type de pratique théâtrale, ou quelqu'un comme Bataille s'inscrivent dans cette tendance de polyphonisation du texte, qui est, à mon avis, la découverte fondamentale, en effet, de Bakhtine.
Oui, pour penser même à quelqu'un de plus proche historiquement de Dostoïevski, moi je pense à James, enfin, chez qui exactement le même genre de livre. Je veux dire que Bakhtine aurait pu faire, puisqu'il a pris Dostoïevski comme ça, bon, peut-être parce qu'il est russe, parce qu'il aime spécialement ça et qu'il le connaissait bien, mais je veux dire, c'est presque un exemple illustratif pour une sorte de théorisation du roman. Sur James, on pourrait concevoir exactement le même type de livre.
Je ne suis pas absolument certain, moi, parce que Bakhtine insiste beaucoup sur le fait qu'on ne peut jamais savoir ce que pense Dostoïevski. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Dostoïevski lorsqu'il écrit. Par contre, il y a, on pourrait dire, une vérité jamesienne.
Je ne suis pas si sûr que Bakhtine pense que Dostoïevski n'est jamais assuré de ce qu'il dit. C'est-à-dire que Dostoïevski n'a jamais la certitude qu'il n'existe pas un sujet global et général derrière ce qu'il écrit.
Moi, je me permettrais d'avoir une attitude moins psychologique, si vous voulez, par rapport au texte dont il s'agit et par rapport à la lecture de Bakhtine lui-même. Et j'insisterai une fois de plus sur cette lecture analytique que j'avais proposée tout à l'heure. À savoir, pour reprendre notre dernier thème, ce qui réunit tous ces auteurs dont nous venons de parler, Joyce, Mallarmé, Artaud, Bataille, si on veut, Henry James, c'est qu'ils présentent quelque chose que Bakhtine a senti comme le propre du genre romanesque, à savoir que le propre du genre comme roman, c'est d'avoir introduit l'inconscient dans le discours de la vérité absolue. S'il y a un discours monologique, le discours théologique, le discours d'un savoir qui vise à une vérité en soi, le roman introduit l'analyse de ce discours, dans la mesure où il introduit l'inconscient. Il lui porte la contradiction. Et c'est cette tendance d'analyse du discours monovalent que le roman moderne, dans sa polyphonie et dans ses divers aspects, qui se présentent d'une certaine façon chez Joyce, sous une autre façon chez Mallarmé, quand même donne une cité à ces tentatives différentes.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que j'avais introduit le nom de James, dans la mesure où je trouve que si chez quelqu'un, le problème de ne pas savoir ce qu'il écrit et d'être soumis à la pluralité du fantasme, au morcellement, au dédoublement et tout, est important, c'est vraiment chez James, et disons d'une certaine façon comme chez Dostoïevski, parce qu'apparemment, il véhicule encore, disons, un roman traditionnel. Ils obéissent encore à un système du personnage et tout, qui n'est pas déjà ce jeu de montage de phrases cassées qu'on aura chez Joyce, par exemple,
où
c'est plus explicite.
Je vais ajouter quelque chose avant que vous cédez la parole. C'est peut-être que si cette analyse du discours monovolant a commencé par la constitution du genre romanesque chez Cervantes ou chez Rabelais, il y a eu un moment faible de cette analyse. C'est-à-dire qu'une fois les contradictions de l'inconscient ayant éclaté, avec le haut, le bas, la nourriture, l'excrément, etc., on a voulu motiver ces contradictions. Et on a fait le personnage, le caractère, le temps, le récit, qui sont là pour souder aussi, on veut, pour effacer les différences trop grandes, trop flagrantes.
Le héros balzacien, etc., ce qui se détruit
et
à la fin du 19e.
Justement, ce qui éclate, c'est cette motivation ne tient plus le coup à la fin du 19e siècle. L'analyse est redevenue au premier plan de la scène romanesque, et ça continue avec le nouveau roman, avec les tentatives plus actuelles, avec Bataille comme achèvement, si on veut dire, de la carnévalisation, épuisement de la carnavalisation, dans la mesure où il étudie tous ces rapports de la loi, de sa transgression, de l'impossibilité de la transgression de la loi, et où le problème de la contestation du discours monovalent, du discours monologique ou théologique devient très important, et l'analyse est très très poussée.
Il me semblait qu'il y avait deux problèmes évoqués par Bakhtin. D'une part, celui d'une pluralité de personnages et une polyphonie qui ne se résout pas à un sujet parlant qu'on peut appeler l'auteur, et d'autre part d'autres types de discours qui se trouvent dans le roman moderne, qui se résument le plus clairement dans ce qu'on appelle le mot valise chez Joyce, c'est-à-dire en fait la rencontre dans le mot de plusieurs discours. Et je crois que ce sont deux problèmes assez différents, n'est-ce pas?
Oui, il y a encore de la représentation, il y a encore des personnages qui représentent des entités. Dans l'autre sens, chez Joyce déjà, cette carnavalisation, ce polymorphisme atteint le niveau même du mot, du verbe lui-même, le niveau sémantique, le niveau lexical, le niveau syntaxique.
C'est
beaucoup plus profond.
Mais il y a quand même un élément que vous passez un petit peu sous silence. C'est les successives prises de conscience par les écrivains des nécessités de montage. Quand James écrit, disons qu'il écrit après Dostoïevski, je veux dire par là que quand James écrit, il a conscience qu'il y a une nécessaire intrusion de la technique dans ce qu'on appelle vulgairement le fond social, le fond psychologique. De même que quand Rob Grier écrit, sa matière même est déjà technique. C'est ce que je conteste, disons, chez Dostoïevski. Et c'est ce qui pose le problème très difficile à résoudre de l'extraction d'une poétique à partir de Dostoïevski, ce qui est absolument légitime par Bakhtin. Mais tout se passe comme si l'extraction de cette poétique avait été assumée par les écrivains qui viennent après.
Mais je crois que c'est
si vous voulez, je m'insurge contre l'idée selon laquelle
ça serait
nous
déjà
avons
explicitement dans Dostoïevski.
Oui, ce serait
pas
déjà
c'est un faux problème.
Ouais,
parce
c'est
qu'il
un faux problème.
Pas important s'il en était
oui,
conscient ou non.
Mais
même le problème même de l'inconscient.
Et moi, je trouve que c'est le même
non,
problème.
Il suffit
pour
de lire
James.
Les préfaces. Il suffit de lire les préfaces de James pour faire la différence entre une technique que l'auteur veut absolument présente et la différence entre ça et d'autres écrivains qui n'ont pas voulu que cette technique.
Mais oui, mais sur quoi James appuyait sa technique? A priori, sur la psychologie de William James, alors qu'en fait, il parlait de Freud.
Oui, c'est ça, parce que le niveau
ce,
de l'inconscient dépend
ce
de son savoir personnel.
Bon,
et à son inconscient, il fait des choses qui relèvent d'un savoir postérieur.
C'est ce en fait que je conteste radicalement. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de raison de nous dire, en fait, Balzac.
Mais il y a, oui, je suis dans un sens un peu d'accord avec vous, dans la mesure où il y a une différence entre un auteur de type 19e siècle et un auteur plus moderne qui se branche lui-même sur des découvertes scientifiques, qui essaie de justifier son œuvre à partir d'une science. On connaît les références à la science d'Edgar Poe, de Mallarmé, etc. C'est peut-être un phénomène plus moderne, plus propre à ce qu'on appelle les avant-gardes littéraires. Enfin, je peux vous accorder, je crois, ceci en ce qui concerne les différences entre ces deux types d'écrivains. N'empêche que le niveau de conscience de Henry James par rapport à ce qu'il écrit dépend du type de savoir qu'il peut avoir, mais n'est pas la vérité de sa poétique, parce que cette vérité est justiciable d'un autre type de savoir qu'il ne possède pas forcément.
Il me semble qu'on pourrait peut-être court-circuiter cette question du savoir et du non-savoir autour du freudisme en revenant à Rabelais, puisqu'après tout, Bakhtin a écrit son deuxième livre sur Rabelais, c'est qu'il a trouvé chez Rabelais quelque chose qui l'intéressait dans ce domaine. C'est que chez Rabelais, qu'il le sache ou non, qu'il soit conscient ou non, il y a cette rencontre de discours et la reprise de tout un discours qui est celui de son époque et qu'il détruit là, à l'intérieur de son livre, dans cette polyphonie du carnaval. Et je crois qu'il est vraisemblable que, à mon sens, que Bakhtin a repris Rabelais après Dostoïevski comme une contre-épreuve de son étude sur Dostoïevski.
C'était « Le regard et la lecture » sur Mikhaïl Bakhtin, une émission de Michel Zerafa et Raymond Bellour, avec Julia Kristeva et Michel Beaujour, diffusée pour la première fois le 23 novembre 1970.